Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous pour la prochaine heure, comme à l'habitude, pour parler 9e art, pour parler bande dessinée. Et cette semaine, plus précisément pour parler d'un ouvrage de bande dessinée, il s'agit du « Vers la tempête » de Jean-Sébastien Bérubé. Donc Bérubé qu'on connaissait entre autres pour son travail sur Radisson, donc récit autobiographique en plusieurs tomes qu'il nous a offert il y a de ça plusieurs années, et qu'on connaît aussi particulièrement pour une certaine réinvention d'un côté style, d'un côté narratif qu'il avait amené vers l'autobiographie avec « Comment je ne suis pas devenu moine », qui avait eu d'ailleurs pris quelques nominations ça et là. Et donc, qui nous revient toujours dans ce style avec « Vers la tempête », un récit aux accents familiaux et aux accents de karaté, un album qu'on avait envie d'explorer en sa compagnie au fil de l'émission d'aujourd'hui. Et ça tombe bien puisqu'il est avec nous, Jean-Sébastien Bérubé. Bonjour.
Oui, bonjour, merci de l'invitation.
Ça me fait plaisir. Et on va situer d'abord chronologiquement peut-être un peu « Vers la tempête ». Donc, la dernière fois qu'on avait eu l'occasion d'échanger, c'était autour de « Comment je ne suis pas devenu moine ». Et donc, « Vers la tempête », ça se situe immédiatement après. Dans le fond, tu reviens du Tibet, on est en 2007, tu retournes chez toi à Rimouski.
Oui, c'est ça. C'est la suite chronologique de « Comment je ne suis pas devenu moine ». Puis, ça faisait longtemps que je voulais faire cette bande dessinée-là aussi. Vers la tempête, dans le fond, tu sais, tout le contexte de mon projet, là, de passer ma ceinture noire de karaté, c'est que, tu sais, tout comme « Comment je ne suis pas devenu moine », quand j'ai fait « Comment je ne suis pas devenu moine », tu sais, j'avais raconté mon voyage avec Jean-Louis Tripp, puis... sa blonde à l'époque, puis il m'avait dit « Ah oui, tu devrais faire une bande dessinée sur ça. » Puis « Vers la tempête », c'est un peu la même chose, c'est que j'ai raconté à mes amis, je racontais souvent à mes amis le contexte de, justement là, mon projet de passer ma ceinture noire de karaté à Rimouski, puis tout le monde disait que c'était une histoire incroyable, puis qu'il fallait que je fasse une BD avec ça, tu sais. Fait que c'est de là que qui est venue l'idée de faire la tempête, tu sais.
J'ai l'impression que pour toi, un peu comme « Comment je ne suis pas devenu moine avant la tempête », c'est des instants fondateurs de qui tu allais devenir, de qui tu allais choisir de devenir aussi, que tu présentes à travers ces deux BD-là. Donc, j'ai l'impression que c'est deux briques importantes dans ton cheminement à toi.
Oui, ça, c'est clair. C'est clair parce qu'en plus, tu sais, les événements que je raconte dans « Vers la tempête », là, sans dire de punch, là, c'est des événements que j'ai jamais revécu après, là, puis je veux dire, heureusement, là, parce que c'est des événements qui sont assez rough, puis assez dramatiques, puis très intenses, là, je veux dire, dans Vers la tempête, il y a l'histoire avec mon prof de karaté, il y a l'histoire avec ma famille, tu sais, mon père, mon grand-père, tout ça. Puis tout ça, c'est tous des moments émotionnellement très intenses que j'ai vécu dans ma vie à ce moment-là. Puis ça s'est tout déroulé sur un an, donc toute l'année 2007. Fait que, tu sais, l'année 2007, que ce soit avant 2007 ou après, moi, j'ai jamais vécu d'autres événements comme ça dans ma vie, tu sais. Puis je pense que, comme tu dis, c'est là que vient, tu sais, ce que tu disais, là, le truc fondateur ou, disons, gros de la vie, tu sais. Mais ouais.
Et après 10 ans, j'imagine qu'arrive un moment où on se dit, ben, d'un côté, en tant qu'auteur BD, de l'autre, en tant qu'humain, j'ai le recul suffisant peut-être pour être capable de bien raconter ça, parce que tu t'es laissé quand même du temps, donc ça fait presque une quinzaine d'années, pour trouver, j'imagine, peut-être un peu l'énergie, la façon, la manière, ou avoir l'impression que c'était le moment de raconter ces histoires-là?
Oui. Déjà, Vers la tempête, je voulais pas la faire avant « Comment je ne suis pas devenu moine ». C'est important pour moi de raconter les événements dans l'ordre chronologique. Mais aussi, là, c'est que quand j'ai commencé à faire « Comment je ne suis pas devenu moine », je le savais qu'éventuellement, j'allais faire vers la tempête. Mais, tu sais, j'étais pas prêt psychologiquement à faire vers la tempête. Puis c'est comme si le fait d'avoir fait « Comment je ne suis pas devenu moine », parce que « Comment je ne suis pas devenu moine », c'est ma première bande dessinée autobiographique. Parce que, tu sais, j'avais fait Radisson avant. Mais donc, Comment je ne suis pas devenu moi, ma première bande dessinée autobiographique, c'est comme si commencer à parler de ma vie, ben, tu sais, quand j'étais au Népal puis au Tibet, mais encore là, le récit de voyage, c'était plus léger, j'avais plus de détachement, c'était plus léger. Parce que dans Comment je ne suis pas devenu moine, on voit pas ma famille, je parle pas de ça. Je parle juste de moi qui est au Népal, au Tibet, qui fait des rencontres de gens, puis qui réagit aux événements, puis aux anecdotes de voyage. Donc, Comment je ne suis pas devenu moine, c'est ça. Mais ça m'a donné comme... Ça m'a habitué à faire de la bande dessinée autobiographique. Ça m'a donné une confiance aussi de faire de la bande dessinée autobiographique, puis aussi le fait que Comment je ne suis pas devenu moine, ça a marché ben, quand c'est sorti. Je me suis dit, OK, ben c'est comme si j'avais plus de confiance, puis pour oser plus aller plus loin vers la tempête au niveau du dévoilement de soi, tu sais. Fait que, ouais. Puis donc, le recul aussi, il vient de là, tu sais. Parce que c'est clair que vers la tempête, j'aurais pas pu faire ça ben, avant parce que j'avais pas la confiance puis l'audace de le faire, tu sais, comme je l'ai fait.
Puis j'imagine aussi que le regard puis la dynamique, en fait, tu parlais justement dans Comment je ne suis pas devenu moine, tu es tout seul, donc c'est tu te racontes toi, tu te livres toi, puis à la limite, on sent peut-être un peu un regard un peu souriant envers la personne que tu étais à l'époque de ce voyage-là, puis de ce que tu allais chercher là-dedans. Tandis qu'aussi, le Jean-Sébastien Bérubé qu'on découvre dans Avant la tempête, ben, tu sais, c'est pas une période facile de sa vie, c'est une période qui est confrontante, puis auquel il est forcé à se confronter à, entre guillemets, ses démons, ses côtés plus sombres. Et ça amène aussi peut-être, justement, on n'est pas dans ce regard souriant sur le soi qu'on était, mais à la limite, c'est une époque où on porte peut-être un peu jugement sur qui on était, sur où on revient dans des souvenirs qui sont pas faciles aussi, parce qu'il y a des moments difficiles que tu racontes là-dedans. Donc, j'imagine qu'on n'est pas non plus dans la même dynamique de création du tout, là, dans le fond.
Non, ça c'est clair. Tu sais, du coup, aux gens, tu sais, quand les gens ils me demandent comment c'était faire Comment je ne suis pas devenu moine versus faire la tempête, ben, tu sais, je dis toujours que pour simplifier, là, je dis toujours que quand j'ai fait Comment je ne suis pas devenu moine, je riais beaucoup. Puis quand j'ai fait vers la tempête, je pleurais beaucoup. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça, tu sais, les deux livres. Les deux processus de création et de réalisation, ça a vraiment été ça. Parce que, comme tu disais, comment je ne suis pas devenu moine, c'est je riais de moi-même, de comment j'étais quand j'étais allé à Katmandou. Puis, tu sais, quand j'étais allé à Katmandou, j'avais 26 ans. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Donc, tu sais, quand je faisais comment je ne suis pas devenu moine, je riais beaucoup de comment j'étais à 26 ans, tu sais, puis j'étais allé à Katmandou, puis tout ça. Alors que... Vers la tempête, c'est 2 ans plus tard, puis c'est pas du tout le même contexte, puis c'est vraiment plus, ben c'est ça là, dur psychologiquement. Puis c'est que quand je faisais Vers la tempête, dans le fond, je pleurais beaucoup parce que c'est toutes les émotions liées à ce qui est arrivé. Encore une fois, sans dire de punch, là, ce qui est arrivé à mon prof de karaté, ce qui est arrivé à mon père, c'était beaucoup des émotions liées à ça. Fait que tout le contexte de passage de ceinture noire, tu sais. Puis dans le fond, quand j'ai écrit Vers la tempête, tu sais que dans le fond, j'ai écrit deux versions. La première version a été refusée par Futuropolis. Parce qu'ils trouvaient que ça manquait de chair, que j'allais pas assez loin. Parce que quand j'ai écrit la première version de Vers la tempête, là, j'osais pas aller dans l'histoire plus familiale. C'est ça, j'osais pas aller là-dedans. Puis mon éditeur de Futuropolis, ben, il trouvait que ça manquait quelque chose, là, tu sais. Parce que c'est comme si, dans le fond, j'évitais de parler. Comme exemple, là, tu sais, dans Vers la tempête, il y a les scènes où je vais chez ma psychothérapeute au CLSC de Rimouski. Ben, il n'y avait rien de tout ça dans la première version. Parce que j'osais pas raconter ça. Puis mon éditeur de Futuropolis, ben c'est sûr, quand il a refusé mon scénario, il m'a dit, ben, tu sais, ça manque, là, tu sais, ça manque de profondeur, ça manque, tu sais, de chair, de contenu. Ça fait que j'ai écrit la deuxième version. Puis quand j'ai écrit la deuxième version, là, je me suis vraiment lâché, dit, OK, ils veulent avoir du contenu, ben, je vais leur en mettre du contenu, tu sais.
Ils t'ont incité un peu à aller dans tes tripes, à aller voir un peu plus
Oui,
loin.
c'est ça. Puis il était mon éditeur quand il a lu la deuxième version. Il était totalement ben, tombé en bas de sa chaise, tu sais. Il s'attendait pas à ça, tu sais. Puis c'est ça, toute l'équipe de Futuropolis, quand ils ont reçu la deuxième version de Vers la tempête, ils étaient tous comme surpris, puis très, très, très impressionné, tu sais. Fait que là, bon, j'ai dit, OK, bon, ben, c'est ça qu'il fallait que je fasse, tu sais. Mais
Et
ça a été dur de le faire, tu sais.
oui, parce que j'imagine, dans le fond, si tu dis, mais regarde la première version, t'avais pas eu le réflexe d'aller aussi loin. J'imagine que c'est un peu le défi la deuxième fois qui t'a donné le déclic un peu, ou est-ce que c'est parce que avec le recul du premier jet, tu t'es rendu compte qu'effectivement, manquait quelque chose, effectivement, fallait que tu te mettes en position d'être plus vulnérable que tu l'avais escompté au départ avec ce projet-là?
Oui, c'est clair. Puis aussi, tu sais, vers la tempête, on pourrait diviser toute l'histoire en deux. Il y a toute la partie qui se passe au karaté, puis il y a toute la partie qui se passe chez moi. Puis dans la première version, il n'y avait pas de chez moi, tu sais. Il y avait juste la partie qui se passe au karaté. Puis donc, toute la partie qui se passe chez moi, tu sais, c'est la partie que je voulais pas faire au début, tu sais, que j'avais peur de le faire. Mais c'est cette partie-là qui manquait. Donc, justement, la vulnérabilité, puis les relations, tu sais, comme la relation avec ma coloc, la relation avec, c'est ça, mon père, mon grand-père, la relation avec ma mère. Tu sais, au début, dans la première version, ma mère était même pas dedans. Puis ma psy, puis ma mère étaient pas dedans. Dans la première version du livre. Puis aussi, tu sais, ben, tu sais, c'est drôle à dire, mais dans la première version, ça manquait de femmes, tu sais. C'était plus genre le karaté, mon père, tout ça. Donc, tu sais, la première version, c'est ça, ça manquait de femmes. On voyait pas mes relations avec les femmes, donc avec ma coloc, ma mère, puis ma psy. Puis aujourd'hui, je repensais à ça, puis je me dis, crime, une chance que j'ai faite la deuxième version, parce que tu vois, finalement, quand j'ai écrit la deuxième version, le personnage de ma psy, là, à la fin, ça s'est avéré à être un des personnages les plus importants du livre. Fait que, tu sais, c'est une chance que je l'ai faite, tu sais, parce que le personnage de ma psy dans la BD, c'est un personnage psychologiquement fort, tu sais. C'est ce personnage-là qui m'amène à être centré sur moi puis à me prendre en main, tu sais.
Puis en même temps, j'imagine que cette couleur-là devient nécessaire parce que d'un côté, il faut comprendre pourquoi tu vas au karaté. Qu'est-ce qui t'a amené? C'est un exutoire pourquoi, dans le fond? Puis on comprend un peu avec une dynamique familiale qui est difficile. On pourrait presque avoir envie de dire toxique à certains égards, mais pas à tous les égards non plus, mais qui était difficile. Je pense que c'est le meilleur terme. Et en parallèle, bien, toute cette dynamique-là, tu nous exposes, ça étaye aussi comment je ne suis pas devenu moine parce que au bout du compte, on comprend qu'est-ce que tu fuyais. Qu'est-ce que tu allais chercher ailleurs, puis dans lequel tu es retombé au retour. Donc, l'âme du livre, au bout du compte, est un peu là-dedans aussi, en bonne partie.
Oui, c'est ça. Puis tu sais, par rapport à cette partie-là dans laquelle j'avais peur d'aller au début quand j'ai commencé à écrire Vers la tempête, c'est aussi que, tu sais, j'avais surtout peur de la réaction des gens. Puis d'ailleurs, tu sais, l'autre jour, là, ben, je sais pas si tu l'as lu, là, la brume de Mireille Saint-Pierre. Tu sais, j'ai pris une entrevue avec elle l'autre jour, puis qu'elle dit qu'elle avait peur du jugement des gens, mais c'est exactement ça, c'est exactement la même chose pour moi quand j'ai fait vers la tempête. C'est exactement ça, tu sais, c'est exactement la peur de qu'est-ce que les gens allaient dire, tu sais, qu'est-ce que ma famille allait dire, ou juste les gens qui me connaissent pas, tu sais. Genre, hey, ce gars-là, il a bien une famille trash, tu sais. En tout cas, tu sais, genre, là, des genres de réactions comme ça. Parce que, tu sais, que des réactions négatives pour comment je ne suis pas devenu moine, j'en ai eu. tu sais, dans le sens que, tu sais, la grande majorité des critiques de comment je ne suis pas devenu moine sont bonnes, mais il y a des gens qui étaient choqués. Tu sais, il y a des gens qui étaient choqués de lire ça, genre, hey, il est donc ben pas cool, ce gars-là, tu sais, d'aller à Katmandou puis de faire tout ce qu'il fait. Genre, mettons, comme tu sais, il y a une scène dans Comment je ne suis pas devenu moine où je suis fâché parce que les chauffeurs de taxi, ils chargent tout le temps plus cher. Puis, tu sais, comme ça faisait 2 mois que j'étais là, puis que je savais que les chauffeurs de taxi, ils me chargeaient plus cher qu'il y a 3 semaines, disons. Puis là, je m'étais fâché, tu sais, puis j'avais crié après les chauffeurs de taxi. Puis moi, je trouvais ça drôle de montrer ça, tu sais. Mais il y a des gens qui ont vraiment été choqués par ça, puis ils m'en ont voulu, tu sais, d'avoir crié après des chauffeurs de taxi à Katmandou. Tu sais, il y a des gens qui m'en veulent à cause de ça, tu sais.
J'imagine que la dynamique est différente aussi entre, mais tu parlais de ta famille, de ta mère, de tes proches, donc de voir un peu le regard ou des éléments que tu gardes, parce qu'on comprend bien qu'avant la tempête, c'est une vision, une version, dans le fond, cantonnée sur des événements, sur des choses qui ont provoqué des réactions, puis qui ont provoqué un repositionnement chez toi parce que tu es en train de te perdre là-dedans. Ben, d'un côté, tu te montres vulnérable, puis de l'autre, pour ta famille, tu montres de manière assez directe aussi. Ben, voilà ce que je vivais à cette époque-là. Puis si vous n'avez pas compris pourquoi j'ai changé les choses après ça, ben, c'est pour ça, dans le fond. C'est ça qui s'est passé.
Ouais, c'est ça. Puis aussi, tu sais, par rapport aux réactions justement vers la tempête, oui, j'avais bien peur de la réaction de ma mère, tu sais, quand elle allait le lire, finalement, elle l'a lu. Elle l'a lu puis elle a trouvé ça bon, c'est fait que je suis content, tu sais. Mais c'est ça, je pense que, en tout cas, à date, j'ai eu aucune mauvaise réaction à date. Fait que ça, je suis content, fait que, tu sais, c'était peut-être plus dans ma tête, tu sais, c'était peut-être juste moi qui avais peur, tu sais, que ça provoque des réactions chez les gens. Mais en tout cas, à date, toutes les réactions que j'ai jusqu'à maintenant sont toutes bonnes, tu sais.
Et là, ben, mettons, si on se reporte un peu dans la création, donc Jean-Sébastien Bérubé, tu as ta première version qui est faite. Donc, le karaté, tu sais déjà pas mal un peu qu'est-ce que tu vas amener donc en route vers la ceinture noire. Puis on va en reparler par après parce que, évidemment, c'est un côté aussi très important de ce livre-là. Mais si on reste un peu sur la portion familiale, donc tu sais ce que tu veux dire côté karaté. Faut que tu réussisses à trouver ce que tu veux y amener comme écho dans la logique familiale, dans ta logique personnelle. Donc, comment t'organises un peu, comment t'abordes ce travail-là? Est-ce qu'on fait un inventaire de souvenirs? Est-ce qu'on en jase? Est-ce qu'on en retourne dans les albums photos? Est-ce qu'on commence à essayer d'ordonner ça? Donc, comment on organise cette portion-là du récit pour aller chercher l'essentiel, mais pour aussi montrer réellement les choses, pas nécessairement juste être en noir et blanc là, dans tout ça, parce qu'il y a beaucoup de nuances dans ton livre aussi. Là.
Ben, ce qui est bien pour ça, c'est que toi, à l'époque, je voyais ma psy au CLSC à Rimouski, là, en 2007. À cette époque-là, elle m'avait dit d'écrire un journal intime. Puis j'ai écrit, genre, j'écrivais un journal intime régulièrement. Puis je l'ai ce journal intime-là, je l'ai ici, tu sais, chez moi. Fait que je l'ai sorti, puis je l'ai relu. Fait que, ouais, non, c'est ça, tu sais. Il y a ça. Il y a, ben, tu sais, je suis allé à Rimouski, parce que là, je dis que quand je dis que je suis allé à Rimouski, c'est parce que j'habite à Montréal, là. Je suis retourné à Rimouski, puis je suis allé prendre des photos. J'ai pris des photos, là, de tous les lieux où ce que les événements se sont passés. J'ai parlé avec ma mère parce que j'avais besoin d'une autorisation écrite de ma mère pour Futuropolis, là. Ensuite, mais c'est que j'ai vraiment écrit. Quand je fais de la bande dessinée, que ce soit Radisson ou les autres, là, autobiographiques, je remplis toujours un carnet de notes. Je m'achète un carnet de notes, je le remplis de toutes mes idées, mais c'est pas structuré là, ça. C'est juste comme tout ce qui me passe par la tête que je pense que j'ai besoin de raconter dans la BD que je suis en train de faire, je l'écris dans n'importe quel ordre. Mais c'est après que, une fois que, dans le fond, c'est un travail de brassage d'idées, là, de brainstorming. Puis une fois que ce travail-là il est fait, j'écris le scénario à l'ordinateur plus ben, précis, là, avec un début puis une fin pour que je sache tout ce que je m'en vais avec tout ça. Puis après ça, je fais le découpage graphique. Puis quand je fais le découpage graphique, ben là, je place toutes les cases, les bulles, les textes dans les bulles, puis je fais des croquis, c'est super vite là, dans chaque case pour donner une idée de ça va être quoi les angles de vue, les plans, puis qu'est-ce qu'on va voir dans chaque case. C'est très esquissé. C'est ça, le découpage, c'est ça que je soumets à l'éditeur. Ça fait que, tu sais, pour Vers la tempête, c'est vraiment ça, tu sais, puis dans Vers la tempête aussi, j'ai redessiné des scènes parce que y a des scènes que je trouvais qu'on sentait pas assez les émotions dans le sens que je trouvais que c'était je trouvais ça gentil. Bon, comme il y avait des scènes comme ça, puis tu sais j'avais fait tu sais je faisais comme tu sais des gaufriers de 6 cases. Puis là, à un moment donné, je trouvais que ça manquait de ça, je trouvais que ça manquait de torque, tu sais, ça manquait de bon. Fait que là, je me dis crème, j'ai comme éclaté ça, j'ai décidé d'éclater ça. Puis de faire des pages qui n'ont pas de cases, puis tu sais, c'est des dessins les uns à côté des autres. Entre autres, toutes les scènes de psychologie, tu sais, ça a été un défi technique pour moi parce que je me disais, ben là, tu sais, je peux pas dessiner tu sais, des conversations entre moi puis ma psy, champ contre champ, dans le bureau de ma psy sur 10 pages, tu sais, c'est bien trop plate, tu sais. Fait que là, c'est là que je réfléchissais beaucoup de comment je pouvais représenter ces scènes-là de façon di dynamique et intéressante. Puis c'est là que j'ai eu l'idée de faire des pages pas de cases avec des dessins qui s'enchevêtrent. Puis que ça allait être comme des bribes de souvenirs. T'sais, en fait, ça, là, les bribes de souvenirs, j'ai piqué ça à Scott McCloud. Scott McCloud, dans Le Sculpteur, à un moment donné, il fait ça, t'sais, puis moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, ce gars-là, c'est un génie, puis avec j'ai piqué ça. Mais t'sais, dans Vers la tempête, là, il y a plein d'affaires que je pourrais dire, ça, j'ai piqué ça à un tel, ça, j'ai piqué ça à un tel. Il y a plein de trucs comme ça que je pourrais dire. Mais tu sais, c'était vraiment le gros défi au niveau de l'art de la bande dessinée. Le gros défi, c'était vraiment de représenter ce que j'avais besoin de représenter, mais de façon dynamique et intéressante pour pas que tes lecteurs, ben, ils trouvent ça plate, puis tu sais, c'est ça.
Oui, puis en fait, les séquences, tu parlais des séquences chez la psychothérapeute, je pense que justement, c'est un très bon exemple parce que, effectivement, dans le flot de souvenirs, on sent un peu là, des souvenirs qui arrivent, qui éclatent, dans le fond, au fil de ces rencontres-là. Puis autant qu'à un moment donné, je me disais, tu sais, il faut que tu trouves une façon de montrer le déclic. Puis t'arrives justement dans des séquences, dans des pages d'explication, mais où on est ailleurs, dans le fond, côté mise en scène, côté univers. Puis où on sent justement qu'il y a quelque chose qui se brasse dans ces moments-là. Parce qu'au bout du compte, le paroxysme un peu, j'ai l'impression psychologique de ça, c'est la période où tu te mets en mouvement, où tu te mets en décision. Mais c'est en lien avec ces rencontres-là. Donc, il faut que tu réussisses aussi à travers une conversation à faire sentir le déclic, puis le changement de perspective que ça va amener pour la suite du livre aussi. Donc,
C'est
c'est un bon
ça.
défi finalement.
Ouais, non, c'est ça, c'est exactement ça. Puis tu sais, j'ai fait le bac en bande dessinée à l'UQO, puis quand j'ai fait Vers la tempête, j'ai vraiment mis en application tout ce que j'avais appris là, tu sais, au niveau des différentes façons de faire une planche de BD, tu sais. Tu sais, il y a quatre modes, en tout cas, tu sais, à l'UQO, là, on apprend que Il y a quatre modes de représentation de la planche. Tu sais, il y a la planche conventionnelle, ça c'est le gaufrier. Il y a la planche rhétorique, ça c'est plus Tintin, Astérix. Il y a la planche décorative, puis il y a la planche productrice. Là, productrice, c'est quand tu mets. C'est un peu dur à expliquer, mais c'est quand tu mets la case au service du récit, c'est-à-dire que quand la forme de la case, elle change en fonction du récit. Un bon exemple là, de planche productrice, c'est l'auteur Andreas. L'auteur de BD Andreas, quand tu regardes ses bandes dessinées, tu vois que t'sais, il y a des cases, mettons des grandes cases qui ratissent de plus en plus, ou des cases qui font un éventail, ou des cases. C'est une façon plus éclatée de disposer les cases. C'est plus ça, là, ce qu'on appelle planche productrice. Une planche décorative, c'est une planche qui a. En fait, la définition de la planche décorative, c'est quand la case est le dessin. Donc, moi, les planches vers la tempête qui n'a pas de case, ben c'est des planches décoratives. Tu sais, c'est le dessin qui fait la case.
Et puis, on sent un jeu aussi parce que, d'une certaine façon, côté psychologique, c'est un peu, il y a un côté combatif, dans le fond, dans la réflexion, on se met en action, on lutte un peu contre soi-même, contre le fait qu'on se met des barrières pour pas ouvrir les vannes, en fait, vers le vrai problème ou vers les vrais enjeux ou des choses comme ça. Puis, je trouvais qu'il y avait un écho dans l'éclatement de la mise en scène que tu avais dans ces pages-là, qu'on retrouvait aussi dans les scènes de karaté, dans les scènes de combat, à proprement parler. Donc, ce qui fait qu'aussi, graphiquement, tu nous avais déjà préparé avant avec le Shiyoshin, avec le karaté, dans le fond, dans les séquences qui allaient venir avant. Puis, en parallèle, ben, dans le paroxysme de ton album, on retrouve aussi cette esthétique-là, à la fois dans le combat, mais à la fois aussi dans l'émotion, donc où tu mélanges un peu les deux approches, dans le fond, que tu as mis de l'avant dans le premier deux tiers de l'album, finalement.
Oui, c'est ça. Puis aussi, par rapport aux scènes de combat dans Vers la tempête, encore une fois, c'était important pour moi de pas dessiner les scènes de combat tout le temps de la même façon. Je voulais, encore une fois, je voulais pas que le lecteur s'emmerde en lisant mon truc. Puis, tu sais, les scènes de combat comme celle de la compétition, qui est la scène de combat la plus longue dans la BD. Au début, je commence avec des cases droites. Puis là, dès que l'arbitre il dit « OK, go, allez-y », les cases deviennent en diagonale. Puis plus le combat avance, puis à la fin, ça finit qu'il n'y a plus de cases. Parce que dans le fond, je voulais montrer une progression, là, une progression dans l'intensité du combat. Plus le combat avance, plus c'est intense, puis comment ça va finir, tout ça. Puis ça fait que je voulais aussi montrer que, mais ça, tu sais, c'est d'un point de vue plus de quelqu'un qui en a fait, là. Je voulais trouver une façon d'illustrer comment que, tu sais, quand on fait du combat, c'est qu'à un moment donné, on est tellement stressé puis dans l'adrénaline du combat, tu sais, qu'à un moment donné, ben on perd le fil, tu sais. On perd la notion du temps. Parce que, tu sais, deux minutes dans la vie, c'est pas long, mais dans un combat, c'est super long. Puis, puis je voulais montrer, justement, qu'à un moment donné, on perd le fil du temps. C'est pour ça qu'au début, dans le combat, quand il y a les scènes de combat où que les cases sont en diagonale, puis à un moment donné, on arrive, puis il n'y a plus de cases. Ça, c'est à partir du. Tu sais, le combat que j'avais fait, il avait duré trois rounds. Puis, au début du deuxième round, il n'y a plus de case. Puis, c'est ça, c'est que je voulais montrer que là, rendu au deuxième round, là, tu sais, je commence à perdre le fil de.
L'instinct embarque, là, tranquillement.
C'est ça. Perdre le fil de qu'est-ce qui se passe. Puis là, à partir du deuxième round, il n'y a plus de case, tu sais.
Puis ça nous fait, en fait, je trouvais justement que ça nous faisait ressentir le combat plutôt que, tu sais, à un moment donné, dans le fond, on comprend la dynamique, mais d'aller sur l'émotion du combat, sur la douleur, sur la fatigue, sur l'instinct, justement, plutôt que d'aller vers une espèce de récit de combat très narratif. Je trouvais que c'était plus riche parce que, dans le fond, on est dans l'émotion de toute façon, dans Vers la tempête. Et au bout du compte, le karaté devient un peu un exutoire, un trop-plein d'émotions. Donc, faut retrouver un peu cette dynamique-là émotive dans l'approche que tu choisis de nous transmettre ce sport-là, dans le fond.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, le karaté Kyokushin, tu sais, ça faisait longtemps que je voulais montrer ça en bande dessinée parce que les gens, quand ils pensent, les gens qui connaissent pas ça, là, tu sais, quand ils pensent au karaté, ils ont des images dans leur tête, tu sais, le karaté qu'on voit dans les films, le karaté dans le film Karate Kid, comme tu sais, dans le film. Karate Kid, lustré, frotté, bon. T'sais, les gens, ils ont ces images-là dans la tête, puis les gens, ils savent pas non plus que. Parce que moi non plus, je le savais pas quand j'ai commencé à faire du karaté, c'est que il existe plusieurs styles de karaté. Je pourrais même pas dire combien de styles de karaté il existe dans le monde, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis, tu sais, au Japon, ça a beaucoup évolué, le karaté, ça a beaucoup changé. Puis, le karaté Kyokushin, c'est considéré comme un des styles de karaté les plus durs au monde. Puis donc, ça, les gens, ils savent pas ça, tu sais. Parce que souvent, les gens, quand ils entendaient dire que je faisais du karaté. Ils pensaient que, tu sais, qu'on faisait des katas, puis qu'on apprenait des techniques d'autodéfense, puis c'est ça, tu sais. Mais non, tu sais, le karaté Kyokushin, c'est qu'on faisait des combats à main nue, puis on frappait pour vrai de toutes nos forces. Puis je voulais montrer ça parce que, tu sais, je savais que ça avait le potentiel de choquer les gens aussi, là, de montrer le karaté Kyokushin, comment ça se pratique, tu sais.
La
Puis,
brutalité, ce, d'une certaine façon, de...
oui, c'est ça. Puis là, tu sais, aujourd'hui, je sais que dans certaines écoles de karaté Kyokushin au Québec, ça a changé avec le temps parce que la façon dont on m'enseignait le karaté au début quand j'étais ceinture blanche, je pense qu'aujourd'hui ça se fait plus vraiment, là, dans le sens que je pense que qu'aujourd'hui il y a peut-être des gens qui porteraient plainte, là. Mais tu sais, au début, en tout cas, moi, là, tu sais, j'ai appris le karaté old school, là. Bon, puis t'sais, au début, là, quand j'étais ceinture blanche. Mais là, ça y allait fort, disons, là, t'sais. C'était, ouais.
Et d'une certaine façon, à travers le karaté, ben, tu peux te parler un peu aussi, on va chercher toujours les conséquences, dans le fond, soit la réaction de tes parents ou de ta famille qui allaient voir, qui ne savaient pas justement ce que tu viens de nous dire, le côté un peu combat main nue, propre au Kyokushin, d'un côté, puis de l'autre, ben, après justement les combats, autant qu'après l'examen de ceinture noire, autant donc les coups, la douleur, l'impact sur le corps que ça avait aussi, les conséquences, dans le fond, du karaté comme tel.
Ouais, c'est ça. Ben oui, tu sais, quand, mettons, je revenais d'une compétition, puis j'étais couvert de bleu, puis ma mère, elle me voyait couvert de bleu comme ça, puis là, ben c'est ça, là, tu sais, elle se fâchait, tu sais, c'est ça, elle se fâchait après moi. Ben oui, ben, puis, tu sais, je parle de ma mère, mais les réactions les plus virulentes, c'était celles de mon grand-père. Tu sais, mon grand-père, il haïssait le karaté, tu sais. Mais il haïssait tous les sports de combat. Tu sais, moi, après le karaté, je suis allé faire des arts martiaux mixtes aussi, là. Fait que, tu sais, j'en parlais pas. Je me rappelle plus si je l'avais déjà dit à mon grand-père. J'ai peut-être jamais dit, tu sais, j'ai peut-être jamais dit à mon grand-père que j'avais, parce que ça, c'était quand j'ai déménagé à Montréal, tu sais, quand j'ai déménagé à Montréal, ben, tu sais, je racontais pas à mon grand-père ce que je vivais à Montréal, tu sais, Mais donc, c'est ça. Donc, je pense que j'avais jamais dit que je faisais des arts martiaux mixtes, tu sais. Mais tout ce qui était les sports de combat, là, la boxe, bon, tu sais, toutes ces affaires-là, la boxe, la lutte, tout ça, ben, mon grand-père vieillissait ça, tu sais.
Et peut-être justement, ça ouvre la porte un peu à plonger dans les figures, je pense, de cet univers-là. Tu disais au départ, c'est un univers qui était quand même très masculin dans ce livre-là, parce qu'au bout du compte, c'est outre le toi de l'époque, ces trois figures masculines qui dominent aussi l'album, ton père, ton grand-père et ton professeur de karaté, dans le fond, qui ont un impact assez direct sur tout ce qui se passe. Il y a d'autres gens qui ont un impact fort, ta mère, ta psychothérapeute, mais j'ai l'impression que c'est ces trois figures masculines-là qui dominent un peu l'album. Puis celle de ton grand-père, qui domine peut-être un peu aussi toutes les autres, qui avait une place très importante à l'intérieur de ta famille, à l'intérieur du processus décisionnel de ta famille aussi. Peux-tu nous parler peut-être un peu de cette dynamique-là que tu mets de l'avant à l'intérieur d'avant la tempête, de vers la tempête?
Ben, c'est intéressant que tu dises ça parce que tu vois, quand ma mère, elle a lu le livre, elle me dit après, on sent beaucoup la présence de ton grand-père. Puis oui, tu sais, parce que mon grand-père, c'était quelqu'un qui prenait beaucoup de place ben, dans la famille, puis dans ma vie, puis il était très, très imposant, mais il s'ingérait beaucoup. Il faisait de l'ingérence. Genre, il appelait chez nous, puis il me demandait tout le temps ce que je faisais. Puis à chaque fois que le téléphone sonnait, puis que c'était mon grand-père, tu sais, j'étais tout le temps super stressé. Tu sais, j'avais tout le temps peur, en fait. Tu sais, je pouvais me chicaner avec mon père. Quand je n'étais pas d'accord, quand mon père il me disait des affaires là, que ça ne me tentait pas de faire ou que je n'étais pas d'accord avec lui, j'avais pas peur de me chicaner avec mon père puis de revirer mon père de bord. J'avais pas peur de faire ça avec mon père, mais avec mon grand-père, au début, je n'étais pas capable parce que j'avais trop peur de lui. T'sais. Si j'y. Ben, tu sais, c'est ça. C'est que j'avais. Quand j'étais petit, j'avais peur de mon père, mais là, une fois rendu adulte, j'avais plus peur de mon père, mais j'avais encore peur de mon grand-père, tu sais, puis j'ai eu peur de mon grand-père jusqu'à la fin de sa vie, tu sais.
Un peu comme si ton père aussi lui-même avait peur de son père à lui
C'est
aussi.
ça, c'est ça. C'est aussi, je voulais montrer par rapport à ces dynamiques relationnelles-là. Je voulais montrer la dynamique relationnelle entre mon père et mon grand-père aussi, tu sais. Comment mon père, il faisait pas vraiment qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie, il faisait plutôt qu'est-ce que mon grand-père il attendait de lui, puis comment mon père, justement, il était pas capable de s'exprimer, puis tu sais, par rapport à s'exprimer, justement, c'est quelque chose de, tu sais, de très important que je l'ai raconté dans Vers la tempête. T'sais, justement, on parlait de la masculinité. Le personnage de ma psy, elle me dit, elle, dans le fond, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle me dit, hey, Jean-Sébastien, c'est correct si tu as des émotions. C'est correct si tu vis des émotions. C'est correct si tu les exprimes parce que les émotions ont besoin d'être vécues puis ont besoin d'être exprimées. T'sais. Dans le fond, le message de ça, c'est que c'est pas une faiblesse d'avoir des émotions puis des exprimer puis bon, tu sais, tout ce qu'il appelle en psychologie l'intelligence émotionnelle puis le langage émotionnel, mais ça, c'est des affaires qui était ridiculisé chez moi là, dans ma famille, t'sais, avec mon grand-père puis avec mon père, t'sais, qui étaient deux hommes, t'sais, on parle pas de ça, puis avec beaucoup de rigidité. C'est ça, c'est que mon grand-père puis mon père, c'était deux hommes qui étaient très très rigides, sévère et contrôlant. Puis, tu sais, oublie ça, là, eux autres, les émotions, là, oublie ça, là, tu sais, fallait pas les montrer, tu sais. Fallait pas les montrer parce que fallait pas être faible, tu sais, fallait pas. Puis en plus, surtout que, tu sais, ben, en tout cas, je sais pas si ça paraît, là, dans la BD, mais mon grand-père puis mon père, ils étaient très homophobes. Ils étaient extrêmement homophobes. Bon, tu sais, puis mon grand-père, en plus d'être homophobe, il était raciste aussi, là, fait que c'était tout ça, là, tu sais, c'était cette éducation-là que moi, t'sais, j'étais en réaction envers cette éducation-là, parce que moi, sérieux, là, tu sais, je me disais, t'sais, je pourrais pas être gay, t'sais, si j'étais gay, t'sais, c'est quoi qui arriverait dans ce temps-là, là, quand mon grand-père était là, parce que t'sais, mon grand-père, il est décédé, là. Il est décédé quand j'ai sorti Comment je ne suis pas devenu moine. Mais t'sais, quand mon grand-père était vivant, puis ben, tu sais, que dans le fond, que j'étais en relation avec lui, tu sais, si j'avais été gay, moi, tu sais, il aurait fait une crise, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est ça.
Même juste sur. Parce que dans le début de l'album, on sent justement subir de la pression de ce système-là, de disons, au niveau émotionnel, dans le fond, tu parles d'intelligence émotionnelle, t'en as pas eu tant que ça de transmise par tes modèles masculins familiaux. Donc, tu es un peu en détresse à travers tout ça, tu sais pas, t'arrives pas à t'exprimer, t'as des gros défis de ce côté-là. Et le karaté vient un peu, dans le fond, contrebalancer ça, donner à tout le moins un endroit pour sortir le trop-plein qui devient nécessaire parce que faut que tu apprennes à les contrôler, à les canaliser, ces émotions-là. Et c'est pas facile quand, j'imagine, quand on n'est même pas capable de, ou pas facilement capable de les identifier, de les laisser aller, de s'exprimer librement, dans le fond.
Ouais, c'est ça. Ah, puis tu sais, justement, tu parles de difficulté à s'exprimer. Ben, tu sais, un autre enjeu, là, vers la tempête, comme ça l'était dans Comment je ne suis pas devenu moine, puis dans ma vie de tous les jours, c'est le bégaiement, tu sais. Ben, l'affaire avec mon bégaiement, c'est que, comme mon père puis mon grand-père, c'était deux personnages qui étaient très intimidant, très imposant, rigide et tout ça. Hey, moi, là, commencer à tenir tête à ces gens-là avec mon bégaiement, ben, c'est ça, je trouvais ça dur. Surtout que mon grand-père, il m'écoutait jamais. tu sais, des fois, je disais des affaires à mon grand-père. Genre, tu sais, je disais des trucs comme, tu sais, je me sens pas respecté quand tu fais ça, disons, quand tu fais telle chose. Comme la scène dans Vers la tempête où que mon grand-père, il rentre tout le temps dans mon bureau, tu sais, il avertit pas avant. Moi, mettons, je sais pas, j'étais en train de dessiner des planches de radisson, j'étais en train d'ancrer une planche là, à angle de Chine, tu sais, puis mon grand-père, ben, il rentre dans mon bureau, puis il commence à me parler, je sais pas, de que il est pas content, soit il est pas content après mon père, ou il est pas content après des clients à son bureau, tu sais. Fait que là, il rentre, puis ah, il commence à parler comme ça, tout ça. Puis tu sais, en année, j'ai dit à mon grand-père, tu sais, quand tu rentres tout le temps comme ça dans mon bureau, ben ça m'empêche de travailler, tu sais, donc j'aimerais que tu arrêtes de faire ça, tu sais. Ben, c'est ça, là, tu sais,
Lui, il prend mal, puis il
il
réagit très
prend mal,
négativement.
puis il prend mal, puis il s'emporte, puis il part en claquant la porte, tu sais. Fait qu'il y avait tout le temps des réactions comme ça fait que c'était donc moi, il fallait que je gère mon fallait que je gère mon bégaiement, puis fallait que je gère mes émotions, puis ma peur d'affronter ces personnes-là. Parce que l'affaire avec le bégaiement aussi, c'est que sais, à cause que je bégayais, j'avais tout le temps peur que les gens prennent pas au sérieux qu'est-ce que je dis. Tu sais, que je sois, parce que je l'ai vécu, tu sais, que je sois décrédibilisé. Comme, tu sais, un bon exemple de ça, là, une fois, là, j'ai passé une entrevue pour travailler dans une librairie de bande dessinée, puis j'ai été refusé à cause que je bégaye. Tu sais, le gérant me refusait, il a refusé de m'engager parce que je bégaye, puis il disait que les clients il n'allait pas accepter ça, tu sais. Parce que lui, il n'acceptait pas ça. Puis il m'a clairement dit dans l'entrevue que pour lui, le bégaiement, c'était une sorte de faiblesse. Tu sais, il m'a clairement dit ça dans l'entrevue. Puis il m'avait dit ça, puis il m'avait dit que je devrais arrêter de bégayer, tu sais.
Si ça se faisait comme par magie, comme ça
Ça.
aussi, là, c'est.
Et puis l'affaire avec le bégaiement, c'est qu'aujourd'hui, avec les récentes études scientifiques, on sait que le bégaiement, c'est génétique, c'est neurologique. C'est comme exemple, quelqu'un qui a les yeux qui louchent, ben, tu sais, tu peux pas dire à quelqu'un, arrête de loucher tes yeux, tu sais. Mais le bégaiement, en fait, le bégaiement, il peut se contrôler, mais jusqu'à un certain point, tu sais, mais là, moi, tu sais, si, je veux aussi avoir de la spontanéité dans ma façon de m'exprimer, ce qui fait que le bégaiement, ben, je le contrôle jusqu'à un certain point. Mais là, tu sais, si je voulais contrôler le bégaiement à 100%, il faudrait que je change ma voix et que je me mette à parler comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu sais, à un moment donné, c'est ça, là.
Et je pense qu'on comprend avec ce type d'échange-là la teneur, je pense, un peu d'avant la tempête et surtout, je pense, l'intimité dans laquelle tu nous invites. Donc oui, le karaté, et puis on met beaucoup de l'avant cette dimension-là, je pense, d'avant la tempête parce que c'est très fort dans ta manière de nous amener dans cet univers-là, mais aussi dans ton côté intime, personnel, dans ton évolution de soi. Puis au bout du compte, je l'ai reçu un peu comme un album où c'est comme un peu une mise en marche, une mise en mouvement, dans le fond, où tu diagnostiques que t'as un problème, que t'as des enjeux à régler, puis où tu décides d'aller chercher de l'aide, puis où cette aide-là que tu as choisi d'aller chercher, ben, t'aide à justement te mettre en mouvement. Et après cette mise en mouvement-là, c'est là qu'arrive aussi, j'ai l'impression, le deuxième crescendo de l'album, un crescendo émotif. On tourne un peu autour de ça au fil de l'entrevue, puis je pense que je ne veux pas dire exactement ce qui se passe, mais il y a deux éléments majeurs qui se déroulent là-dedans. Et qui vient un peu à agir comme un point d'orgue, dans le fond, tu sais, créer une situation où il n'y a plus de recul, il n'y a plus de retour en arrière possible parce que la situation d'avant n'existe plus parce que c'est des événements majeurs aussi qui se passent. Comment on se sent un peu à raconter ça, puis tu sais, à replonger aussi dans ce crescendo-là, dans cette semaine-là, dans le fond, au bout du compte, que tu avais vécu, puis qui n'a pas dû être facile à traverser au départ non plus, puis pour
Non.
réussir aussi à la mettre en image.
Oui. Ben, d'un point de vue graphique, dans la semaine en question, il y avait beaucoup de va-et-vient, tu sais, entre mon appartement, la maison de mon grand-père. Après ça, à un moment donné, je vais dans le bureau de ma psy. Ça fait que là, c'est ça, il y avait moi à mon appartement, après ça chez mon grand-père, après ça au bureau de ma psy, puis je faisais plein de va-et-vient comme ça, tu sais, tout le temps. Là, je voulais pas que ça soit trop je voulais pas que ça soit trop genre yo-yo, tu sais. Je voulais pas que ça soit trop comme ça. Encore une fois, tu sais, je pensais au lecteur qui allait lire ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, la psy, je vais juste la montrer une fois parce que de toute façon, je suis allé juste une fois durant cette semaine-là. Tu sais, j'ai comme condensé, là, si tu veux, là, dans le sens que on me voit chez moi, on me voit chez mon grand-père. J'ai essayé de ne pas faire, C'est juste des va-et-vient comme à chaque jour parce que ça a duré. Parce que, ben, dans le fond, l'événement est arrivé lundi, puis mon passage de Saint-Tournon était le vendredi soir. Donc,
Puis
tu
à
sais.
trop de va-et-vient, on se serait perdu narrativement. Donc, faut
Ouais, c'est
trouver
ça.
ça a condensé un peu ça.
C'est ça. Donc, ça, c'est pour la partie scénaristique, graphique. Pour la partie émotionnelle, ben là, tu sais, c'est. Ouais, c'est là, à ce moment-là, les émotions étaient dans le tapis, tu sais. La scène que j'ai trouvée le plus dur à dessiner, c'est le passage de Saint-Tournoire. C'est ça que j'ai trouvé le plus dur à dessiner parce que c'était tellement intense comme. Moment que je voulais pas rater mon coup, tu sais. Puis c'est surtout c'est le climax du livre, c'est là où la tension dramatique est à est à son maximum. Ça fait que là, je voulais que le passage de Saint-Tournoire, je voulais vraiment que ça fesse, tu sais. Puis c'est ça. Ça fait que tu sais, c'est ça. Cette scène-là. J'ai pris mon temps pour la dessiner parce que c'est ça, je ne voulais pas rater mon coup avec ça. Puis je ne voulais pas non plus répéter la même chose que j'avais faite avec la compétition. Ça fait que j'ai essayé de dessiner les choses différemment. Comme dans le passage de ces tournois, il y a une scène où ce qu'on voit, quand je commence à faire mes combats, on voit l'horloge, puis les cartes sont autour comme l'horloge qui tourne. Mais tu vois, ça, c'est une idée que j'ai eue en le faisant, tu sais, parce que je voulais trouver une façon de représenter le temps qui passe, mais pas de la même façon que je l'avais fait dans le combat de la compétition. Fait que là, j'ai pensé à l'horloge, j'ai eu un flash de l'horloge qu'on voit. Puis je me suis dit, hey, je pourrais la mettre au centre de la page, puis mettre les cases autour, tu sais, comme si, mettons, les aiguilles qui. Tu sais, il fallait que je trouve des façons. C'est ça, j'avais besoin de trouver des façons originales, puis innovatrices de raconter ces moments-là. Mais c'est clair que toute cette scène-là, la semaine, puis la semaine qui arrive, le gros événement, puis le passage de Saint-Tournoire, c'est les scènes que j'ai trouvées le plus émotionnellement difficile de dessiner. C'est ces scènes-là que j'ai pleuré beaucoup, tu sais.
On en replonge dans des souvenirs qui sont pas nécessairement faciles ou qui sont. C'est des blessures qui restent toujours là, même si le temps fait son œuvre, là, comme on dit. Puis de réussir, j'imagine, à bien rendre. Puis il y a des séquences là-dedans. Tu parles de l'entraînement. Je veux dire, c'est on sent l'effort, on sent l'énergie, on sent un rapport au temps qui n'est pas le même non plus, effectivement, que dans celui du combat. On n'est pas dans la même finalité, dans le fond. On est dans le dépassement de soi. On est dans le paroxysme émotif aussi. Puis juste avant, mais des séquences qui sont. Plus éthéré, dans le fond, un passage vers le blanc aussi, des très belles planches à la fin de tout ça. J'incite les gens d'ailleurs qui nous écoutent à quand ils vont croiser l'album en librairie, peut-être pas lire le texte, mais feuilletez-le, vous allez tomber nécessairement sur des séquences comme ça, voir un peu la variété. Puis, parce que comme tu dis, de toute façon, ça reste basé sur un album relationnel, donc il faut trouver une façon de pas simplement rendre le dialogue, mais rendre l'effet que le dialogue a sur nous, rendre comment on vivait ce dialogue-là, puis c'est là-dessus qu'on va aller trouver le côté narratif de cet échange-là. Puis je trouve que tu réussis à bien le faire là, dans Vers la tempête.
Ouais, ben, c'est ça, là, j'ai essayé de varier, tu sais, mettre de la contemplation, disons, comme, tu sais, les paysages de Rimouski, là, les paysages de Rimouski avec l'hiver, puis tout ça, j'ai essayé de mettre, tu sais, de faire ça dans la contemplation. Aussi, là, l'affaire avec Vers la tempête, c'est que, visuellement, c'est différent de Comment je ne suis pas devenu moine, parce que là, ça avait pas le choix, parce que Comment je ne suis pas devenu moine, c'est un récit de voyage, puis là, tu sais, ça se passe à Katmandou, puis après ça, au Tibet, à Lhasa, puis il y a tout le côté road trip dans les Himalayas, puis les Himalayas, c'est impressionnant, c'est immense, c'est majestueux. Mais là, tu sais, quand j'ai dessiné Vers la tempête, Je me disais, OK, mais là, tu sais, comment je vais montrer Rimouski, tu sais, dans le sens, tu sais, comment je montre Rimouski après avoir montré le mont Everest, puis la salle Katmandou, puis tout ça, tu sais. Mais, tu sais, je suis content que tu me dises qu'est-ce que tu me dis, là, par rapport aux planches, tu sais, aux images vers la tempête, parce que, tu sais, j'avais vraiment besoin de dessiner Rimouski, tu sais, genre, de façon comme épique, genre.
Et on découvre tout ça, je le rappelle, dans le fond, l'album s'appelle Vers la tempête, c'est disponible du côté de chez Futuropolis, chez tous les bons libraires. Jean-Sébastien Bérubé, merci beaucoup.
Mais merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.
Et bien voilà qui conclut cette édition de La vie en BD. Passez une excellente semaine et on se dit à la semaine prochaine. C'est Raymond Poirier au micro, toujours au plaisir d'être avec vous.